Carte blanche est donnée ce matin à Mgr Benoît Kschwint, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix.
Bonjour Mgr Benoît Kschwint.
Bonjour Isabelle.
C'est votre première carte blanche de l'année 2026 sur Radio Présence. Le mois de janvier s'achève déjà et février se profile. Plusieurs temps forts émaillent le mois le plus court de l'année. C'est d'abord la présentation de Jésus au Temple de février. C'est aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Qu'est-ce qu'elle vient célébrer, Monseigneur ?
Effectivement, le mois de février, c'est un petit mois, mais pour l'Église, c'est un mois riche en événements, avec la journée de la vie consacrée, la pastorale de la santé, le mercredi décembre, l'appel décisif, etc. Et la journée de la vie consacrée, tout au début du mois, d'abord, c'est la chandeleur, hein, c'est le moment aussi où on fait des crêpes, mais on oublie parfois cette dimension de la vie consacrée. Moi, de la journée de la vie consacrée, février, nous remet en face de nous, notre baptême, mais surtout ces religieux, ces religieuses, ces moines, ces moniales, ces consacrés qui sont à la fête le 2 février, parce que c'est une occasion de découvrir ou de redécouvrir un peu la radicalité avec laquelle des hommes et des femmes ont choisi de vivre l'Évangile.
Oui,
une radicalité qui interpelle l'Église tout entière. Et de fait, la vie religieuse, aussi, sans en avoir le monopole ou l'exclusivité, elle est un signe du royaume au cœur du monde. Leur manière de vivre en communauté est assez extraordinaire. C'est quelque chose qui est signe du royaume. Alors, c'est un signe. Ça ne veut pas dire que tout est idéalement bien vécu partout. Mmh. Hein, voilà, c'est pas le temps du royaume, mais c'est simplement un signe. Et les vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté sont aussi une réponse originale, radicale, hein, et personnelle au baptême que ces hommes et ces femmes ont reçu un jour, comme chacun d'entre nous. Les vœux sont, je crois, essentiels pour la vie consacrée, sans en être le cœur. Ils sont d'abord, surtout, je crois, les conséquences d'une réalité plus importante, la rencontre personnelle avec Dieu que l'on peut faire dans la vie religieuse et qui conduit à entrer dans une communauté, une histoire d'amitié finalement avec le Christ. Et c'est le Christ pauvre, chaste et obéissant qu'on est appelé à rejoindre.
Oui, et puis c'est un appel qui demande une réponse assez radicale quand même, hein, de tout quitter pour le suivre le Christ.
Mais oui, alors ces vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, j'ai envie de dire, nous rappellent avec force que c'est pas l'argent qui fait la vie et la valeur d'un homme, que c'est pas le pouvoir qui en fait la grandeur, et qu'aimer se vit dans l'attente amoureuse du désir de l'autre aussi, en gardant cette distance à nul autre pareil, comme dit Régine Ducharlat, qui dit, en parlant de la chasteté, elle dit cette distance à nul autre pareil où le Christ se révèle comme le tiers présent, quoi. C'est absolument extraordinaire de voir que les vœux, finalement, touchent au sexe, au pouvoir et à l'argent, pour parler brièvement, mais nous appellent aussi à vivre de manière sereine ce rapport au monde.
Aux passions.
Et voilà, ce qui fait la valeur, la grandeur d'un homme, c'est aussi la réponse qu'il fait à l'appel qu'il entend pour sa vie. Et je crois que la journée de la vie consacrée, elle nous remet en face de l'appel que nous avons perçu au jour de notre baptême et de notre manière dont nous essayons de vivre notre baptême. Saint Jean-Paul II, la première fois qu'il est venu en France, avait dit « France, souviens-toi de ton baptême, qu'as-tu fait de ton baptême ?» quoi. C'est la question que nous prenons, j'ai presque envie de dire, un peu en pleine figure, chaque année, le 2 février, au moment de la journée de la vie consacrée, parce que les religieux, religieuses, les moniales, les consacrés de tout genre, hein, et de tout ordre, puisqu'il y a différentes manières d'être consacrés, nous remettent en face au moment de cette présentation de Jésus au Temple aussi.
Et cette journée sera donc l'occasion de rendre grâce aussi pour toutes ces vocations, hein, toutes ces vies consacrées qui sont données au Seigneur. Et puis, comme vous le dites, Mgr Benoît Kschwint, de redécouvrir aussi son propre baptême et sa propre vocation.
Tout à fait. Hein ?
On va parler d'une autre date, hein, la date du 8 février, c'est le dimanche de la santé et c'est un dimanche qui ouvre aussi, qui annonce la journée du 11 février, qui est la 34e journée mondiale des malades. Le pape Léon XIV a choisi comme thème la compassion du Samaritain, aimer en portant la douleur de l'autre. Qu'est-ce que ça vous suggère pour cette thématique de la pastorale de la santé, Monseigneur ?
Alors, c'est vrai que la pastorale de la santé, cette dimension aimée en portant la souffrance de l'autre, c'est pas rien. Moi, j'ai envie de dire, les malades sont ceux qui sont absents de nos communautés dominicales. Ce sont ceux qui nous manquent, mais à qui la communauté manque aussi. Mmh. Et je crois que cette journée du malade et cette journée mondiale des malades, elle a elle a aussi comme vocation, j'ai envie de dire, de mettre un peu en avant la pastorale de la santé dans notre diocèse. Comment nous sommes attentifs à celles et ceux qui ont besoin d'une parole, d'un geste et même d'un sacrement, parce que c'est souvent aussi l'occasion de vivre dans les paroisses le sacrement des malades, entendre résonner cette parole qui dit d'une certaine manière que cette onction, elle redresse, elle remet debout, elle pardonne, elle ouvre
console.
Un horizon, elle console. Mm. Ouais.
Oui, c'est effectivement une bonne occasion de vivre ce sacrement dans ce cadre, dans le cadre de cette journée. Hein.
Oui, et puis je crois que la pastorale de santé, c'est une pastorale de la visite, de l'écoute, du prendre soin, d'être attentif à l'autre. On entend dans l'évangile de Matthieu, au moment du jugement dernier, au chapitre 25, hein, « J'étais malade, vous m'avez visité, mmh. ou j'étais malade et vous êtes passé à côté de moi. » Oui. C'est en fait une priorité évangélique de se tourner vers les petits, vers les pauvres, vers les malades, vers les prisonniers. C'est ce qu'on retrouve dans le jugement dernier. La journée des malades nous remet les absents de nos communautés au cœur. Moi, j'aime beaucoup dans l'Eucharistie quand des personnes se présentent pour porter l'Eucharistie après la célébration communautaire,
aux malades,
à des malades, à domicile. Allez porter le corps du Christ à nos frères et sœurs malades. Dites-leur notre amitié, dites-leur l'assurance de notre prière. Demandez-leur de prier aussi pour nous. Et je crois que c'est un dialogue qui se vit dans ce moment où des personnes portent l'Eucharistie à des malades. C'est un dialogue entre la communauté qui vient de célébrer l'Eucharistie et ce tête-à-tête qui va se vivre autour d'un malade avec une personne qui vient lire la parole de Dieu avec elle et qui vient lui tendre l'Eucharistie pour qu'elle rejoigne la communauté, oui. même dans sa maladie, dans sa souffrance. Voilà.
Et l'Église ne se limite pas à ce lieu de l'Église, mais cette paroisse, elle s'étend effectivement avec les malades qui ne peuvent pas venir à la messe en paroisse et qui sont soit chez eux, soit à l'hôpital ou dans des maisons de retraite, par exemple.
Tout à fait. Et puis ce dimanche de la santé, c'est aussi l'occasion de rendre visibles dans nos communautés les aidants, les professionnels de santé, les bénévoles du service évangélique des malades, l'aumônerie qui existe dans beaucoup d'établissements de santé, les visiteurs de malades, d'EHPAD, d'hôpitaux. C'est toujours un travail en équipe qui se vit. Mmh. J'ai souvenir, quand je suis arrivé dans ce diocèse de Pamiers il y a 2 ans, que se terminait une formation un peu lourde, parce que c'était plusieurs week-ends où une quarantaine de personnes ont travaillé avec l'Institut catholique ici à Pamiers, dans nos locaux, pour se former, pour être engagé dans la pastorale de la santé. C'est vrai que prendre le temps de se former, c'est souvent important, et on oublie parfois de le faire, mais avoir cette attention aux malades et prendre le temps de les visiter nous nourrit tellement de l'Évangile que c'est une grâce souvent.
Oui, c'est vrai. Troisième rendez-vous du mois de février, c'est le 18, puisque ce sera le mercredi décembre qui va marquer l'entrée en carême. Quelle tonalité il pourrait prendre cette année ?
Quand j'ai vu que c'était le 18 février, je me suis dit, on pourrait parler de l'appel du 18 février, quoi. Tout simplement. Mais le mercredi des cendres est en fait un appel. Hein. C'est un appel important à nous mettre en marche, à entrer dans le temps du carême avec les cendres que nous recevons le 18 février. C'est une démarche qui se vit en communauté, où l'on reçoit ses cendres, on est marqué des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ou convertis-toi et crois à l'Évangile. Et les mots du prophète Joël qu'on entend dans la liturgie des cendres sont assez exceptionnels et extraordinaires, dans le sens où le prophète Joël, il dit « Revenez à moi de tout votre cœur » quand il fait parler le Seigneur à travers sa voix. Et l'invitation, elle est forte et puissante. On entend Paul qui dit « Laissez-vous réconcilier avec le Christ ». C'est une invitation qu'on entend chaque année, revenir au Seigneur, notre Dieu. Voilà qui résume un peu l'aventure et j'ai envie de dire le projet de ce temps de carême que nous vivons communautairement, mais c'est en même temps une démarche très personnelle. L'Évangile nous redit aussi, n'oublie pas au secret de ta chambre, Dieu voit ce que tu vis, t'es pas obligé de faire ça sur la place publique, hein, mais c'est une étape importante, c'est-à-dire j'entre dans cette étape du carême, pas tout seul, avec une communauté, d'autres personnes comme moi sont marquées du signe des cendres, et nous allons marcher ensemble 40 jours d'une marche spirituelle qui va nous conduire à Pâques, pour risquer finalement le face-à-face avec Dieu, pour passer du temps avec Dieu, pour parfois pour relire notre vie, pour poser des choix, pour redresser ce qui est pas génial ou pas top, hein, dans notre vie.
Hein.
Les jeunes, ils diraient ça comme ça. On marche avec d'autres et on se rend compte qu'il nous faut en même temps inventer ce temps de désert dans une semaine parfois surchargée, dans un horaire pas toujours adapté. Comment je vais m'organiser pour bien vivre ce temps de carême? Et je trouve que le jeûne le plus important, c'est parfois pas forcément supprimer un repas, mais se dire qu'est-ce que je vais supprimer de mon emploi du temps. À des étudiants, quand j'étais aumônier d'étudiants, je disais, mais peut-être qu'il faut couper Internet une heure dans la journée pour avoir une heure de temps pour Dieu. Et je crois que le meilleur jeûne, c'est celui qui va nous donner du temps pour Dieu. Mmh. Et je crois que ça, c'est primordial, quoi.
Oui, c'est un donner cadeau que l'Église fait, en tout cas, chaque année, dans ce temps de carême. Hein, il faut le saisir, cette supplication, revenez à moi de tout votre cœur. Le mois de février marquera un anniversaire, un triste anniversaire, puisque le 24 février, ce sera la quatrième année du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Oui, effectivement, je crois que c'est une date qui, au début du temps du carême, nous donne quand même... nous convoque, j'ai envie de dire, carrément, à prier et à agir pour la paix en tout point de ce monde. Hein. Je crois qu'on a besoin de la paix, on a besoin de la confiance, on a besoin de cela. Et cette triste date nous donne une attention de prière absolument extraordinaire pour tout le temps du carême. Quoi. Mmh.
C'est vrai. Oui, à ne pas oublier ces peuples qui sont sous le joug de la guerre. Et puis enfin, ce mois de février, voilà, certaines années, il a un jour de plus.
Il a un jour de plus, parfois. Oui. Il a un jour de plus.
Qu'est-ce qu'on peut faire de cette journée?
Il y a un jour que je ne voudrais pas oublier non plus dans le mois de février, avant de parler de ce jour de plus, c'est l'appel décisif.
Ah oui,
pardon. Tous les catéchumènes que nous allons repérer et nous allons nous dire, mais... ils sont là, ils sont devant nous, ils avancent, leur rencontre avec le Christ, c'est un événement majeur dans leur vie, et ils entrent dans cette ultime étape qui les conduit à Pâques et au jour de leur baptême, avec le temps des scrutins qu'on va vivre dans les différentes communautés tout au long du carême. Quoi. Mmh. Et qu'en février, il nous amène à un 29e jour,
c'est cadeau.
C'est super parce que ça nous permet d'avoir un tout petit peu de temps pour nous dire, si j'avais dans ma journée une heure de plus, ou une heure de moins, qu'est-ce que je ferai en plus? Qu'est-ce que je ferai en moins? J'ai un jour de plus en février, qu'est-ce que je fais en plus? Qu'est-ce que je fais en moins? Et bonne ça question. Nous permet de poser des choix. Est-ce que je donne plus de temps au Seigneur, puisque c'est le temps du carême? Est-ce que je donne plus de temps au sport? Est-ce que je donne plus de temps à ma famille? Est-ce que je donne plus de temps, quel choix
nous
faisons? Et ce 29 février, je me dis, c'est des fois un clin d'œil pour nous aider à discerner sur la gestion de notre agenda, tout simplement.
Oui, c'est vrai. Oui. Bah, écoutez, on y pensera à la fin du mois, effectivement, mais ça peut être une réflexion qui peut déjà commencer à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Mgr Benoît Kvint. Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Pamiers-Couserans et Mirepoix, et c'était votre carte blanche de ce début d'année 2026. À très bientôt.
Merci Isabelle, bonne année à vous et à tous les lecteurs, puisqu'on est encore juste au moment où on peut terminer d'envoyer des vœux,
fin janvier. Bonne année, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.